Alors, les moutons électriques ont 5 ans. Comment vont aujourd'hui les moutons électriques ?
Bah écoute, je te dirais bien, bien. Là, je pense qu'on est dans une... Là, 2009-2010, tu vois, on est dans une phase intermédiaire, charnière. Comment dire ? Bon, moi, je suis gérant, si tu veux, depuis 2007. J'étais collaborateur. J'ai suivi, si tu veux, l'évolution de la maison d'édition. Une première époque qui était marquée quand même par le roman, par la bibliothèque rouge. Et puis bon, après André m'a proposé la gérance en 2007, hop, accepté. Et puis bah, si tu veux, ça a correspondu à un moment où ils faisaient un bilan, eux, de leurs premières années d'existence. Le fait que le roman, ça posait des problèmes, que voilà, c'était pas évident, si tu veux, d'exister en tant que petit éditeur. Et puis, au moment où je suis devenu gérant, on était, nous, avec Julien, sur un projet qui était de faire un livre sur les zombies. Puisqu'il n'y a pas de livre sur les zombies en France. Ce qui fait qu'il n'y en avait pas. Qu'on a, du coup, rédigé un double article, quoi, un article sur deux numéros de fiction, qui a été, si tu veux, du coup, la mise en place du bouquin. Et puis, initialement, on envisageait d'aller voir un autre éditeur que les Moutons. Parce que c'était pas encore, si tu veux, dans la ligne finalement éditoriale qui était très marquée par cette structure science-fiction, fantasy, polar, avec la Bibliothèque Rouge. Et du coup, en discutant avec André, à un moment, il vient me voir, quoi, je passe chez lui, et puis on discute, et puis il me dit à un moment, bon, zombie, on le fait. Voilà. Et du coup, comment dire, ça a été l'enchaînement et les dominos qui sont mis en place un par un. On a discuté du projet du zombie, c'est-à-dire ce qu'on voulait faire par rapport au livre. Et du coup, il y avait une méthode, il y avait un point de vue. Ce qui fait qu'en discutant, ça a donné naissance à la Bibliothèque des Miroirs, qui est donc notre nouvelle collection, celle qui va devenir le cœur des Moutons électriques. Donc on a mis en place le nom, on a mis en place un peu l'identité. Et en février donc de cette année, on a sorti le premier volume de la collection Zombie. Donc il y a deux aspects. C'est le livre, si tu veux, le sujet en lui-même de Zombie. Donc ça, on pourra en discuter. Et en même temps, premier livre de la collection des Miroirs. Donc a suivi derrière Guerre des Mondes et Space Up. Donc trois titres, il y en aura trois autres dans l'année. Donc au mois d'août, il y a deux monographies sur des auteurs de comics qui sont Jack Kirby et Jim Steranko. Et pour le mois de novembre, il y aura une monographie sur Miyazaki, mais c'est une étude sur son œuvre. Donc pas du tout une biographie, c'est vraiment une cartographie. Le sous-titre, c'est une cartographie d'un univers. Donc voilà, on met ça en place. Et l'année prochaine, si tu veux, alors c'est intéressant cette année. Au sein des Moutons, il y a à peu près autant de fiction que d'essais, puisque la Bibliothèque des Miroirs est marquée, c'est des essais pour l'essentiel. La Voltaïque, c'est pour les romans, puis il y a la Rouge qui continue son aventure. L'année prochaine, on aura en pure fiction seulement deux volumes, et tout le reste, c'est des essais, ou des études, ou des compilations d'interviews, des choses comme ça. Donc on bascule vraiment au niveau, on va dire, de notre identité. C'est-à-dire qu'on passe d'un éditeur qui était... C'était l'étiquette, hein, fantasy, science-fiction, polar, qui publiait plutôt la fiction. Et là, on passe, pour moi, dans le champ des sciences humaines, avec la Bibliothèque des Miroirs, c'est le sujet, l'imaginaire populaire. Mais en même temps... On conserve, si tu veux, la Voltaïque, c'est pour nous parce qu'elle est très importante. Elle nous permet non seulement de rééditer des ouvrages qui n'existent plus publiés en France, ou des ouvrages qui n'ont jamais été publiés, ou des romans originaux comme le Jaworski. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est important. Mais on est en train de concentrer nos efforts sur la Miroir. Parce que avec la promotion de Zombie, et ça peut-être Julien il en parlera un peu aussi, on s'est rendu compte, si tu veux, que le débat de l'imaginaire populaire, tu vois, la place qu'elle a dans la société, et on va aller se...
Alors, reprise de la discussion après une interruption à cause de la pluie, on était en train de parler des orientations des Moutons électriques, avec donc plus un basculement vers l'essai et les sciences humaines.
Ouais, c'est-à-dire ce champ d'exploration qui est l'imaginaire populaire. Alors je vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais quand on a fait la promo de Zombie, on s'est retrouvé dans des salles de ciné, on a rencontré des gens, il y a eu des conférences, et ce qui nous plaît, si tu veux, c'est à la fois donc de défendre Zombie en tant que tel, c'est-à-dire le travail qu'on a fait dessus, et en même temps de défendre la collection La Miroir, parce que le champ est beaucoup plus large. Et ce qui ressort, si tu veux, c'est que nous, on s'inspire en fait d'une tradition anglo-saxonne, qui sont les cultural studies et les popular studies. Et ça fait des années qu'aux États-Unis ou en Angleterre, des universitaires étudient l'imaginaire populaire, la culture populaire. Donc nous, on s'inspire de cette méthode-là, parce que par rapport à notre travail de recherche, et notamment sur le zombie, on s'inspire voilà, de tout ça. Et on a remarqué aussi, en France, ça n'existe pas. Tu peux aller dans des bibliothèques ou à la FNAC ou ailleurs, il n'y a pas de rayon culture populaire. Donc voilà, ça c'est notre fer de lance. C'est-à-dire que, voilà, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'avec les trois premiers bouquins de La Miroir, on commence à avoir de la presse. La grande presse, Chronicart a fait 3 pages sur le zombie, parce que je pense qu'on s'inscrit dans l'air du temps. Et que au contact des gens, les gens ils ont envie, si tu veux, la relation entre l'imaginaire populaire, la société, le réel, toutes ces choses-là, les gens sont à l'écoute, les gens ont envie. Et puis même, il y a déjà 2 auteurs qui sont venus nous voir, juste sur les 3 premiers volumes, tu vois, ils ont fait des recherches, et il y a une personne, Alexandre Marre, qui lui est venu nous proposer un projet sur sexe et les héros. Et simplement, voilà, parce qu'il a découvert La Miroir, Vas-y, ouais.
Non, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je crois qu'on s'inscrit de deux manières dans l'air du temps, à la fois dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on concrétise, à mon avis, quelque chose on comble un vide. On comble un vide éditorial parce qu'on traite de sujets qui sont considérés habituellement comme du divertissement, comme des sujets qui ne méritent pas une étude sérieuse, entre guillemets, ou savante. Bon, ce qu'on ne cherche pas à faire non plus, hein, ce n'est pas des bouquins universitaires. Et on comble en même temps un vide qui est plus sur la perception de l'imaginaire lui-même et la place de l'imaginaire dans la société. C'est-à-dire que, notamment en France, on est dans une conception très cartésienne de la pensée, et l'imaginaire est considéré comme une échappatoire. Et je pense que ce que voulait dire Raffu avec se placer dans l'air du temps, c'est se placer dans ce manque qu'on éprouve tous, à mon avis, plus ou moins consciemment, d'avoir un espace où l'imaginaire peut vivre dans le monde réel. Et on ne considère pas notre présupposé, c'est de dire que l'imaginaire n'est pas séparé et pas cohabite pas avec le réel. C'est pas une autre dimension, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est imbriqué complètement dans le réel, et c'est là qu'on arrive à cette idée. Une des raisons pour lesquelles on a appelé cette collection la bibliothèque des miroirs, c'est que l'imaginaire puise ses sources dans le réel. Il n'y a pas d'imaginaire qui ne prenne sens quand il est mis en face de son contexte de production. Et en retour, ces productions de l'imaginaire influencent le réel. Quoi. Donc c'est vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de...
Juste pour citer un exemple concret... C'est par exemple, tu as toujours l'état d'esprit des années 50 aux États-Unis, le macartisme, la chasse aux sorcières, la peur du communisme. Donc on connaît au niveau du cinéma Martien égale rouge. Et si tu veux, c'est ça le truc, c'est que l'imaginaire populaire, la culture populaire, reflète l'état d'esprit d'une époque. Et que par exemple sur Zombie, c'est ce qu'on a fait, on a fait un travail chronologique qui fait qu'on voit comment la figure du zombie évolue en fonction de son époque. Et quand tu vas sur le bouquin Space Hop ou sur les autres projets que nous avons, à chaque fois, on reviendra sur cette trame historique. Te rendre compte que tous les éléments de la culture populaire, de cet imaginaire, à chaque fois, ils renvoient à notre société. D'où le fait, miroir, reflet. Et puis, il y a aussi cette idée d'Alice au pays des merveilles. Tu vois, on passe de l'autre côté du miroir, on revient. Voilà, voilà. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Voilà, on essaie d'expliquer La Miroir, tout simplement, parce que je pense que le sujet est intéressant, que c'est donc notre axe. Et c'est là-dessus qu'on va... communiquer, du moins on défend des livres qui vont sortir, voilà, et à chaque fois le livre se défend pour lui-même, et en même temps on arrive à défendre aussi une collection. D'où le fait que je pense que les moutons se portent bien, dans le sens où déjà les ventes progressent, qu'on commence à être lisible auprès des médias, qu'à mon avis le sujet imaginaire populaire, ça va intéresser beaucoup de monde. Donc on est passionné là-dessus et on essaie vraiment de défendre le projet. Et donc l'année prochaine, si tu veux, en l'espace de 2 ans, la Bibliothèque Rouge, il y a combien de volumes?
doit être à 14, la 14 parues, si je ne me trompe pas.
Ouais, 14, ouais. On va arriver à 15. Si tu veux, 15 volumes, on a fait ça en 5 ans. Là, pour la miroir, si tout se passe bien, à fin 2010, on aura 16 volumes. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, là, bon, au cours de ce petit week-end, ce qui s'est vraiment bien, c'est que les moutons, on s'est retrouvés, on a pu discuter, les projets, ils ont fusé dans tous les sens. Là, on a fini un plan pour le bouquin Uchronie, parce que tout s'est déverrouillé, parce qu'on s'est rencontrés. David Calvo nous propose un projet sur Disney, voilà, tu vois le truc. Et là, on va ressortir, moi je repars à bloc, et c'est bon, ce soir ou demain, je reprends mon ordi, et le Miyazaki, je replonge dedans, tu vois, avec vraiment la conviction que... On est sur la bonne piste, ou du moins il y a quelque chose. Voilà.
Tu parlais d'air du temps, il y a Tarzan en ce moment, une expo au Quai Branly. Est-ce que la culture populaire devient une culture ou la culture à part entière?
Je pense qu'il y a. Ouais, si, ça se mélange complètement en fait. C'est, je pense que par force, la société effectivement est amenée à intégrer la culture dite populaire. Et puis parce que je pense qu'on fonctionne toujours par rapport à cette société du spectacle. Et donc on est dans notre propre représentation. Donc si effectivement, et ce que disait Julien tout à l'heure, sur le fait que la culture, l'imaginaire populaire influence le réel. Donc voilà, tout se joue. Et là, juste pour dire, on a aussi en projet un Bibliothèque Rouge sur Tarzan. Donc on amènera aussi notre contribution, essayer de montrer sur un autre point de vue. Voilà quoi, c'est...
Oui, ce qu'il y a aussi, c'est que pour répondre à ta question, la culture populaire, ce qu'on appelle aujourd'hui culture populaire, repose sur la production de masse, de biens culturels en masse. Et nous, ce qui nous intéresse plutôt que la culture populaire elle-même et ses formes et ses développements, c'est la façon dont elle est reçue par les lecteurs, les spectateurs, par les gens, par le public, et ce qu'ils en font. C'est-à-dire comment elle vient se greffer sur des représentations qui sont déjà qui historiquement se sont développées, et puis tout ce que les gens y projettent pour et la manière dont ils s'approprient des choses qui ont été produites industriellement et où ça prend une toute autre signification que celle pour laquelle ces œuvres ont été formatées au départ. C'est-à-dire que nous, on croit réellement qu'il y a un espace de liberté qui se fait entre le moment où on produit, on formate certains films, certains livres, etc., et le moment où ils prennent vie dans la société. Et que malgré tout, et malgré tous les efforts du marketing et de tout ce profilage du public, et ben l'imaginaire populaire est certes nourri de produits industriels, mais reste, comme je disais tout à l'heure, un espace de liberté qui peut pas être contrôlé. Et qui d'ailleurs, on le voit, le système libéral qui produit tout ça, de toute façon, est toujours à l'écoute de ce qu'il n'a pas lui-même produit pour pouvoir y poser sa patte et puis en faire un objet commercial. Donc, il y a un jeu de miroir, là encore, entre l'aspect humain de la culture, sa dimension, le sens qu'elle a pour chacun d'entre nous, et puis sa commercialisation. Donc nous, on travaille sur ces deux plans-là, à savoir décrypter un petit peu les mécanismes dans un sens et dans l'autre, et puis en même temps promouvoir cette idée que ça n'appartient à personne, en fait, et qu'on peut pas se l'approprier à part individuellement, quoi.
Juste pour brièvement, c'est pour finir, si tu veux, sur la présentation de la miroir, pour que tu puisses aussi. C'est juste trois informations brèves. C'est pour la miroir, je défends beaucoup l'idée du collectif, c'est-à-dire que les sujets que nous traitons, il est difficile de le faire tout seul. Donc, au fur et à mesure des bouquins de la miroir, il y a de plus en plus de collaborateurs. Dès que tu as besoin par rapport à un sujet précis, par rapport à un point de détail. Si tu n'as pas les moyens de le gérer, on fait appel à des collaborateurs. Donc il y a ce côté collectif. Il y a le côté encyclopédique de la collection. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les ouvrages, si tu veux, constituent... Alors, une encyclopédie qui ne sera jamais finie, puisque l'histoire évolue, de cet imaginaire collectif, de cet imaginaire populaire. Donc c'est le côté encyclopédique. Et donc à l'intérieur de ces ouvrages, on travaille sur la généalogie d'un sujet, d'un thème, d'une figure, Par contre, on aménage toujours un espace de réflexion sur aujourd'hui. C'est-à-dire, pour les zombies, exemple concret, pourquoi aujourd'hui le zombie infuse la société de cette manière-là? C'est parce qu'il y a une histoire, il y a une généalogie, mais ça nous permet du coup de parler aussi d'aujourd'hui. Donc voilà. Et le troisième aspect, le dernier aspect, c'est la charte graphique. C'est du moins la dimension, l'idée de la miroir, c'est d'associer l'idée du livre d'art et l'essai, ou l'étude, ou une approche, une monographie, mais d'associer donc du coup l'image et le texte, parce qu'on parle aussi de thèmes et de figures qui sont liés à l'image, mais on n'a pas envie de se contenter d'illustrer le propos. Donc l'idée, c'est que la forme, donc la déclinaison, la charte, les images, le fait d'appeler de faire appel à des illustrateurs, des graphistes, c'est aussi, si tu veux, que la forme parle elle-même, elle vient soutenir le texte soutient l'image, et en même temps, on est dans un vrai travail d'un ouvrage qui est aussi plaisant, si tu veux, d'un point de vue esthétique, quoi. Voilà. Donc, c'était pour faire bref, mais c'était pour placer ces éléments qui sont importants.
Ouais, ça tombe bien parce que je voulais parler de l'objet. Je trouve que justement, ces derniers mois, l'objet des livres des moutons, c'est-à-dire le contenant, quoi, a vraiment évolué. On sent vraiment une volonté forte de pouvoir travailler sur le livre et autour du livre, quoi.
Tout à fait. Parce que aujourd'hui, tu vois, le problème du monde de l'image, le problème du livre. Je dirais que c'est par expérience personnelle, parce que je me suis retrouvé, si tu veux, au début à faire la maquette de zombies, ce qui n'était pas prévu. Et du coup, maintenant, je m'occupe, si tu veux, de cette histoire de charte graphique, de mise en page. Donc j'ai maquetté les trois premiers, Guerre des mondes et Space Hop. Et alors, je parle de l'idée de laboratoire, mais qui est maîtrisée. C'est-à-dire qu'avec Zombie, on a mis en place une charte avec des éléments qui se retrouvent de livre en livre. Par contre, je suis vite parti sur l'idée de personnaliser chaque livre. Parce que simplement, moi-même, en tant que maquettiste, c'est bon, si c'est juste pour placer des images en face du texte pour illustrer le propos, au bout de trois livres, j'en ai marre. Donc du coup, il y a une volonté de cette idée de laboratoire, c'est-à-dire d'expérimenter des choses. Miyazaki, par exemple, sera une étape dans cette idée d'association de livres d'art et de textes, d'études dans la miroir, parce que là, j'ai fait appel à deux illustrateurs, une graphiste. On va avoir beaucoup de photos du Japon. Normalement, là, on est en contact avec une illustratrice japonaise. Il va y avoir des dessins d'enfants, français, japonais. Et que cette idée, c'est que toute cette matière-là, elle parle par elle-même, elle amène des choses. Par rapport à Zombie, on s'est dit, il faut illustrer le livre. De toute façon, pour nous, c'était une évidence. On ne pouvait pas faire juste un livre. De cette expérience-là, pour moi, est née, tu vois, la deuxième dimension de la miroir, c'est vraiment cette notion de visuel. Et donc, on va progresser. Déjà, sur Steampunk et Uchronie, j'ai déjà des tas d'idées. Il y a la notion aussi très importante de la cartographie. Parce que le Miyazaki, il y aura une carte de son monde imaginaire. Que David Calvo sur Disneyland, il a déjà une idée de cartographie. Et voilà, donc il y a vraiment tout un travail. Et je pense que c'est des livres qui. Alors, c'est pas une question, tu vois, de marketing ou d'originalité, mais si le livre surprend par sa forme, il peut attirer le public. Et puis parce que, par exemple, Miyazaki, il te raconte, chez lui, c'est le voyage initiatique, c'est le conte, c'est la fable. Et ben, je sais que le livre soit à l'image de ça. Donc du coup, il y a une structure visuelle qui va énormément rappeler le conte. Les têtes de chapitre, par exemple, c'est des banderoles. Tu vois, pour rentrer vraiment dans cette idée de la fable. Et donc du coup, de personnaliser chaque ouvrage avec des éléments communs.
Et en plus de cette idée de cohérence interne à chaque ouvrage, l'idée aussi, tu parlais de laboratoire, notre recherche, c'est d'arriver à intégrer deux livres en un, mais très concrètement, c'est-à-dire d'avoir une possibilité d'une ou plusieurs lectures uniquement graphiques du livre, qui a une lecture graphique qui soit en rapport avec le texte, mais dans l'absolu, dans l'idéal de notre recherche, ce serait de pouvoir avoir une lecture aussi, enfin, également uniquement textuelle ou uniquement graphique, et qu'elle soit en même temps un bouquin cohérent en lui-même, quoi.
Là, on a bien parlé de la nouvelle collection. Tu me disais que vous alliez continuer un petit peu la littérature. Alors, sur quels axes, plutôt du recueil, plutôt du roman, plutôt de l'étranger, plutôt du français, comment ça va se passer?
Tout à la fois. en fait. C'est-à-dire que si on s'arrête pas à la voltaïque, pour nous, c'est une collection qu'elle en tient. C'est vrai que l'année prochaine, il y aura moins de romans, mais ceci dit, il y aura un recueil d'entretiens à l'intérieur. Bon, il y aura d'autres formes qui ne seront pas forcément de la fiction, mais qui appartiennent à la voltaïque. Moi, par exemple, il y a un livre que je veux absolument publier, et là, on est parti pour le faire. C'est Arslan, roman des années 70. Je ne l'ai jamais lu, mais André avait fait une fiche de lecture impressionnante. Et je suis tombé amoureux de ce livre, qui est une utopie, mais ultra radicale. Et tu vois, voilà. Donc pour moi, la voltaïque, et André est complètement d'accord, et on est tous d'accord là-dessus, c'est que c'est à la fois l'occasion de sortir de faire traduire et de publier des livres qui n'ont jamais passé l'Atlantique ou la Manche. C'est aussi, si tu veux, de pouvoir rééditer des ouvrages qui ont été oubliés et qui pour nous méritent. C'est aussi de publier tu vois, des auteurs, Jean-Philippe par exemple, Jaworski. Si demain on a un auteur qui arrive et qui a un projet aussi, un roman aussi, voilà, aussi passionnant, eh ben on va le faire, tu vois. Bah Hugo Bellagamba pour Tancrède, tu vois, c'est ce qui se... voilà. Donc voilà, il y a le recueil de Timothée Ray. Nous, c'est le coup de cœur. Et le livre peut apparaître difficile, ou comme on dirait, non vendable, ou c'est pas.
C'est ce qui est. Je m'en aperçois là, en parlant, mais les trois exemples sont des bouquins qui ont été refusés chacun par de multiples éditeurs. Et on retrouve cette idée de voltaïque aussi, de sauvegarde d'un certain patrimoine, que ce soit le patrimoine ancien, le patrimoine étranger en quelque sorte, et puis ce patrimoine français potentiel qui ne trouve pas sa place, quoi. On donne une place aussi à quelques œuvres qui ont du mal à la trouver, quoi, tout simplement.
On va dire d'un point de vue économique, tout simplement, c'est que la Miroir, on va dire qu'elle se situe dans un espace qui n'existe pas en France. Et le lancement de la collection fait que, oui, les ventes sont en train d'augmenter. Donc, on a a priori touché un secteur. Ce qui fait que ces livres-là, s'ils nous permettent de nous vivre, de faire exister la maison d'édition, ça permet de faire exister la voltaïque. Et que même s'il y a un roman qui ne marche pas, c'est pas grave, parce qu'on l'aura fait, on en aura été fiers. Tu vois, ou le Stéphane Fry, le faiseur d'histoire, ce genre de choses. C'est-à-dire que par contre, on aura... Alors, de manière générale, on n'a pas de concession. Par contre, pour la voltaïque, encore moins. Dans le sens où on publiera ce que nous avons envie de publier, parce qu'on estime que ça vaut le coup. Voilà.
Il y a une dimension intéressante chez les moutons, c'est toute la partie, presque laboratoire, les tirages de tête, la petite anto sur le web, etc. C'est des choses que vous allez poursuivre, amplifier, continuer ?
Tout à fait, là aussi c'est des choses qu'on va continuer. On est en train de préparer un hardcover donc, sur un texte de Wagner. J'ai oublié le texte, parce que là je suis tellement en train de faire des trucs à droite à gauche. Et voilà, c'est... Ouais, voilà. Donc tu vois, du coup, c'est une version hardcover, il n'y aura pas une version, une édition normale. Et puis demain, la Miroir a un format standard, entre guillemets, le format qu'on connaît, voilà, qui est le format des moutons. Mais par contre, on va développer un format proche du panorama, tout simplement parce qu'il est dans les projets pour la Miroir de faire un gros ouvrage sur Mars, tout l'imaginaire martien. Alors t'imagines que c'est énorme, que c'est vieux, quoi, ça remonte à loin, qu'il y a tous les supports, une bande dessinée, voilà, c'est énorme. Ce qui fait que le format actuel ne pourra pas fonctionner. Donc du coup, on va le faire en grand format. Donc ce qui veut dire qu'en fonction du sujet, on va développer un format peut-être plus grand. Et puis moi, honnêtement, il y a la couleur. Si tu veux, pour l'instant, on a un problème, c'est un problème. C'est pas un problème, parce qu'on fonctionne très bien avec, c'est une contrainte. Qui fait qu'on est obligé de publier en noir et blanc. Peut-être que demain, moi, mon rêve, c'est notamment pour le Miyazaki, mais ça, c'est un peu personnel, c'est que je rêve d'avoir une édition hardcover, tout en couleur, comme on a fait pour le Conan le Texan, l'ouvrage de voyage, parce qu'on peut le faire. Tu vois, techniquement, c'est des ouvrages qu'on peut faire à la pièce. Et moi, je m'en fous. Si un jour, il faut que je mette mes 1 500 € pour avoir mon édition, je le ferai. Et je suis sûr que ça intéressera quelqu'un, tu vois, d'avoir une édition couleur. Et puis aussi, il y a tout le développement des livres numériques, du papier numérique, de tous ces supports-là. Ce qui fait que nos ouvrages, on pourrait très bien envisager de les faire sur du numérique en couleur. Donc du coup, de lui donner, si tu veux, du coup, ça vaut le coup de pouvoir se payer le livre numérique parce que c'est la couleur, mais en même temps, il y a le livre matériel, physique, c'est une autre sensation, c'est une autre chose, mais il est pas il est pas galvaudé quoi par rapport à la version numérique.
Comme on disait cet après-midi, le livre numérique est finalement sûrement pas une menace pour le livre papier. Et comme disait David Calvo, c'est pas la mort du livre, c'est la mort des livres laits, quoi. Est-ce que survivront ceux qui gardent cette caractéristique d'objet, quoi. Et les autres, effectivement, qui n'apportent rien de plus qu'un texte, pourront très bien survivre uniquement sous forme virtuelle, quoi.
D'autant que pour les hardcover, on y tient. Parce que si tu veux, c'est une tradition qui n'existe pas du tout en France. Cette idée du beau livre, qu'aujourd'hui, techniquement, les moyens, c'est très facile de fabriquer du hardcover. Et à peu près toute la série qu'on a faite, c'est plutôt bien vendu par rapport aux quantités. Donc on va continuer sur cette expérience, ça c'est évident. Et de toute façon, le fait d'essayer d'associer livre d'art et texte, ça a une logique dans la miroir, c'est son histoire, mais ça ne nous empêchera pas un jour peut-être de... Moi, mon rêve aussi, c'est de faire du hardbook. Tu vois, comme... Parce que ce qui est fascinant dans la culture japonaise, c'est ce paquet de livres d'illustration et qu'ils ont vraiment cette dimension graphique. Que moi, on la retrouve pas chez nous. Donc, demain, on peut tomber aussi sur un artiste, un illustrateur, coup de flash, le truc vraiment bien, avec une histoire avec... Et on pourra développer un format d'un livre spécifique, quoi. Mais ça, on y tient. On travaille sur l'objet. Et d'une certaine manière, c'est finalement rendre hommage à l'objet livre. Voilà.
Dernière question. Simplement, quels sont les prochains titres dans les prochains mois à sortir au Mouton ?
Alors, avec ma mémoire toute fracassée, donc il y a au mois d'août le Jack Kirby et le Jim Steranko. Au mois de septembre, c'est Cthulhu. Et au mois de novembre, là, notre gros morceau, c'est Bibliothèque Rouge Harry Potter et Miroir Miyazaki. Voilà, donc ça, c'est les deux gros morceaux. Et juste pour le début d'année, au moins les six premiers mois de l'année 2010, dans les gros morceaux, on a... Enfin, pour la Miroir, juste pour placer un peu, on a un bouquin sur le steampunk, toute l'esthétique steampunk, par Étienne Barillet. Il y a Uchronie par Hugo et André, et auxquels aussi on va collaborer. Il y aura deux bouquins sur Fin du Monde et Post-Apocalypse, qui sera donc aussi une exploration de ces deux thèmes-là. Et les deux livres sortiront dans la même année. Et il y a aussi un autre gros projet, c'est sur Alan Moore. Donc il sera là, normalement pour juin, quelque chose comme ça. Et puis il y a un bouquin sur Metal Hurlant, il y a plein d'autres petites... surprise, et sexe au mois de février. Voilà. Voilà.